Annecy, son lac, son impérial palace, sa gastronomie savoyarde et bien sûr son festival international du film d'animation. Je suis Pierre Charpillos, vous écoutez Revue et Corrigée, la grande vadrouille, le tour de France des festivals de cinéma par Revue et Corrigée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous embarque pour 3 jours à travers l'histoire du plus grand festival de cinéma au monde consacré aux films d'animation, le Festival d'Annecy. On ira discuter avec le cinéaste Michel Oslo, figure de l'animation et du festival, qui reçoit cette année un cristal d'honneur récompensant toute sa carrière. Mais tout d'abord, on va rejoindre la salle de presse du festival, où nous attend celui qui connaît l'histoire d'Annecy et du Festival du film d'animation sur le bout des doigts, puisqu'il lui a consacré un ouvrage aux éditions de l'Université de Savoie, son président Dominique Puteau. Bonjour Dominique Puteau.
Bonjour.
Alors vous êtes le président du Festival d'Annecy ou président de CITIA, l'organisme qui gère le Festival d'Annecy, mais vous avez aussi l'auteur d'un livre assez passionnant sur l'histoire du Festival d'Annecy, le Festival international du film d'animation, 50 ans d'une histoire animée. Alors c'est sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, donc là on est plutôt à 60 ans d'une histoire animée aujourd'hui, mais vous, votre histoire avec le Festival d'Annecy, elle commence quand ?
Elle commence en septembre 97 où voilà, j'ai été nommé président du festival. À l'époque, c'était une association qui portait le festival et le maire d'Annecy était président de droit et il ne souhaitait pas exercer sa présidence, donc il m'avait demandé de bien vouloir exercer cette présidence.
Vous connaissiez le festival avant ?
Alors je le connaissais en tant qu'annécien. Mais on va dire, j'étais passionné par le monde culturel, mais pas forcément encore passionné par le cinéma d'animation, quoi. Donc je suivais comme un témoin attentif à la vie culturelle annécienne le festival d'Annecy, quoi.
Pourquoi vous auriez envie de vous plonger dans les archives assez riches du festival et d'en raconter l'histoire ?
Alors la vraie histoire, c'est que je souhaitais créer un cas de management sur la gestion de l'événementiel avec ce qu'on gère aujourd'hui en tant que manifestation, et puis je souhaitais écrire une page ou deux sur l'histoire du festival. Et puis en rentrant progressivement dans cette histoire, je me suis passionné, j'ai abandonné mon cas de management pour écrire l'histoire du festival. Et c'est une histoire qui est déjà ancienne puisque c'est plus de 60 ans d'histoire, et c'est une histoire qui est très intéressante parce que elle s'inscrit dans la vie culturelle locale et dans la vie et dans aussi la culture nationale, les politiques publiques. Donc de montrer comment tout ça s'est imbriqué, c'est relativement passionnant.
C'est une histoire passionnante et assez riche, mais si on doit dire en un mot pourquoi un festival du film d'animation naît et pourquoi à Annecy. Alors il n'est pas exactement à Annecy, si je ne me trompe pas.
Alors en fait, après la guerre, on a des ciné-clubs qui se créent en France, et Annecy, il y a le plus gros ciné-club de France, à peu près avec 1500 adhérents. Donc c'est une association qui pèse dans la vie culturelle locale et dans la vie politique. Alors évidemment, ce ciné-club, il rêverait un jour d'accueillir une manifestation cinématographique, et à Annecy est venu ce qu'on appelait les journées du cinéma. C'était une association parisienne et qui organisait des tournées pour faire la promotion du cinéma, notamment après-guerre, et ben pour redonner une dimension au cinéma français. Donc ils faisaient des avant-premières, ils faisaient venir des réalisateurs, des acteurs, et les journées du cinéma sont passées à Annecy. Et il y a eu un premier contact avec le Ciné-Club d'Annecy qui était relativement enthousiaste à leurs expositions, à leurs présentations, à l'accueil des réalisateurs qu'ils pouvaient organiser. Et ce premier contact se noue, et les journées du cinéma, elles, vont organiser 2 éditions à Cannes autour de programmes d'animation. Et à l'époque, à Cannes, c'est perçu comme étant un des programmes les plus intéressants qui est présenté. Et le Ciné-Club d'Annecy va reprendre contact avec les journées du cinéma et en leur disant « nous, on serait que heureux de vous accueillir à Annecy ». Et en fait, les journées du cinéma d'animation, on disait les journées internationales du cinéma d'animation, les JICA, cherchaient un lieu d'accueil en disant « Cannes, c'est bien pour l'aura internationale ». Il y avait déjà le monde des vedettes, comme on disait à l'époque, mais les animateurs qui sont des créateurs ne se sentaient pas forcément bien à Cannes. Et donc, les JICA cherchaient une ville d'atterrissage pour monter leur journée du cinéma. Et le Ciné-Club donc, va leur proposer de venir à Annecy. Et ensuite, le Ciné-Club va convaincre la municipalité d'accueillir ces journées du cinéma. Donc 56-58, 2 programmes sont présentés à Cannes et le festival s'installe véritablement en 1960 à Annecy avec l'accueil de la municipalité.
Quand on regarde effectivement toute l'histoire, il y a des moments assez fascinants, notamment une espèce pendant le rideau de fer entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Il y a un espace un peu étonnant de rencontres entre des personnes qui viennent justement de pays du bloc soviétique et d'autres personnes qui viennent plutôt de pays occidentaux qui se rencontrent autour du cinéma d'animation. C'est quelque chose finalement d'assez exceptionnel et le cinéma d'animation permet ça à Annecy.
Exactement, on a oublié cette période-là, on a oublié, comme vous le dites, le rideau de fer. Et donc Annecy permettait de réunir l'ensemble de la communauté du cinéma d'animation, à la fois des pays de l'Est et des pays de l'Ouest. Et c'est vrai que Annecy a été un peu construit, entre guillemets, contre Disney. L'idée était de montrer l'ensemble des cultures, l'ensemble des cinématographies, je dirais, hors Disney, hors de l'industrie Disney. Et à l'époque, on avait beaucoup de peintres qui voulaient mettre leurs images en mouvement, de graphistes qui quelque part passaient au cinéma d'animation. Et donc, c'était vraiment ce qu'on appelait les grands maîtres du cinéma d'animation. Et l'idée était de dire, on crée cet événement à Annecy. Donc, les premières années, au niveau international, il n'y avait qu'un événement dans le monde important qui était Annecy. Et puis, on avait obtenu une espèce de régulation, c'est-à-dire de dire les années impaires, ce sera toujours Annecy, quoi. Et puis, progressivement, est né un autre événement dans les pays de l'Est, en alternance entre Annecy et aujourd'hui, on va dire Zagreb, mais avant, c'était en Yougoslavie, à Mamaya, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'était l'occasion de faire rencontrer ces artistes qui s'appréciaient, mais ne se connaissaient pas forcément avant que Annecy soit montée, quoi. Et donc, tous les grands sont venus à Annecy. Bien évidemment, en France, Paul Grimaud est un des fondateurs du festival. Mais on avait Iri Trenka qui est venu à Annecy. On avait les Américains indépendants qui venaient à Annecy. Donc, toute cette communauté se retrouvait. Et c'était l'occasion de découvrir, finalement, une culture cinématographique, un graphisme relativement original qu'on connaissait pas forcément à part et qu'on pouvait voir seulement au Festival d'Annecy.
Vous me disiez que l'histoire du Festival d'Annecy, finalement, elle n'était pas forcément très connue, y compris de personnes qui travaillent au Festival d'Annecy ou d'habitués du festival aujourd'hui.
Oui, alors aujourd'hui, c'est une histoire finalement qu'on connaissait pas forcément parce que, en fait, à Annecy, il y avait ce ciné-club, c'était un petit peu les petites mains qu'organisait le festival, mais la conception éditoriale se faisait à Paris, à l'intérieur de l'association des Journées du Cinéma. Et donc se sont succédés à la direction de cette association Pierre Barbin, qui est le véritable fondateur. Et puis ensuite, après les événements de 68, Raymond Maillet. Mais quelque part, il concevait le festival depuis Paris. On va dire la sélection des films, la conception éditoriale. Et puis en fait, il venait un petit peu avant le festival. Et puis avec le Ciné-Club qui servait d'organisateur de cet événement. Et donc, je dirais, la conception éditoriale étant à Paris, le Ciné-Club à Annecy. Il y a eu dans l'histoire du festival à un moment donné un certain nombre de ruptures et une grosse rupture en 81, ce qui fait que les archives d'Annecy sont restées à Paris. Et donc ce qui va se créer depuis Annecy, on va oublier ces archives puisqu'elles sont restées à Paris et donc on ne connaissait pas véritablement notre histoire. Alors ce qui est intéressant à raconter, cette fameuse rupture de 81, elle est intéressante parce qu'elle se fait à différents niveaux. Au niveau local et au niveau international. En fait, au niveau local, il y avait un reproche qui était fait à l'association parisienne, c'était qu'elle n'était pas ancrée sur le territoire. Et on avait des élus à Annecy, et notamment un président de la commission culturelle, qui était un sociologue. Et il considérait que la culture devait partir du territoire. Et puis, il y avait un reproche qui était fait en disant « Ok, vous organisez le festival, mais il y a peu de liens tout au long de l'année avec les acteurs culturels, etc. Il faut ancrer ce festival et il faut l'ouvrir. » C'était les deux mots-clés. Comment on ancre le festival sur le territoire et comment on l'ouvre un peu à tous les genres, à tous les types d'animation. Et il y avait des débats au sein de l'association parisienne, notamment avec les grands maîtres français, les maîtres internationaux. Et l'idée, c'était de dire, faut pas montrer de longs métrages. C'est comme si on mettait un éléphant dans un festival qui va casser la porcelaine. Il y a que les courts métrages qui sont importants. Bien évidemment, ce qui se passe à la télévision, c'est on doit pas le montrer dans un festival. Donc, il y avait des débats entre les anciens et les modernes. Et quand Annecy va prendre le pouvoir dans l'association, l'idée, ça va être de dire on ouvre à toutes les cinématographies, à tous les genres. On va progressivement ouvrir aux séries télévision, ouvrir aux longs métrages. Et donc, le maître mot va être l'ouverture et l'ancrage sur le territoire. Donc, Annecy va rompre avec l'association parisienne. Le contrat du directeur ne va pas être renouvelé en 81. Et un directeur va être recruté sur place, une association va être recrutée sur place pour porter l'événement. Du coup, Paris va garder les archives du festival d'Annecy. Quand je dis garder, il y a les archives historiques, mais il y a les archives techniques pour monter un festival. C'est-à-dire qu'ils vont garder le fichier des animateurs internationaux. Et c'est Nicole Salomon, qui était une secrétaire de jury depuis le début des années 60, qui avait créé un lien d'amitié avec tous les artistes, qui va aider Annecy à reconstruire son fichier pour remonter un festival. Elle va même démarcher le festival de Zagreb pour qu'il nous remette, qu'il nous donne des éléments pour pouvoir monter un festival, car Paris va tout garder pour nous empêcher de remonter une manifestation. Et alors c'est ainsi intéressant, parce que quand on voit la presse de l'époque, évidemment, quand on est une association parisienne, ben on a le lien avec la presse parisienne, Le Monde, Le Figaro, etc. Et à l'époque, les grands titres des journaux, c'était « Annecy n'a rien compris », ils croient que cette manifestation est une manifestation socioculturelle. Donc la presse est très critique par rapport à la prise de pouvoir d'Annecy. Et 82, c'est 83, la première édition qui va être montée par Annecy, parce que c'était une biennale, va être un vrai succès et va démontrer que la manifestation, elle pouvait partir du territoire. Alors quand je disais la rupture, elle a été aussi locale, nationale et internationale, et ben, le ciné-club qui avait servi le ciné-club d'Annecy a initié cette manifestation sur le territoire, et ben va prendre fait et cause pour l'organisation parisienne, et donc ils vont même aider l'organisation parisienne à montrer un autre festival qui d'abord était en banlieue parisienne et aujourd'hui c'est le festival de Rennes. Donc la rupture, elle est aussi avec le ciné-club local. Donc c'est d'autres acteurs locaux culturels qui vont aider à remonter la manifestation. Et puis au niveau international, on s'est servi des réalisateurs internationaux aussi pour cette rupture. C'est-à-dire que il y avait un reproche, c'était que c'était toujours, on va dire, les mêmes acteurs qui sélectionnaient les films, et ils avaient l'impression, les réalisateurs internationaux, que c'était toujours le même type de film qui était sélectionné. Et donc, pour répondre à leurs attentes, nous, à Annecy, on va créer des comités de sélection internationaux. C'est-à-dire qu'on va initier des jurys qui venaient au printemps sélectionner les films, et avec une dimension internationale, en disant ce sera pas fait que par quelques acteurs issus du festival. Et donc de 83 à 2012, la sélection des films Annecy n'était pas assumée par le festival, mais on réunissait un jury au mois de février qui voyait 1500 à 2000 films pour faire cette sélection. Et donc, quelque part, troisième appui quand Annecy prend le pouvoir, c'est il y a un nouveau gouvernement, la gauche est arrivée au pouvoir, il y a un maître mot qui est celui de la décentralisation, et puis on a Jacques Lang qui est au ministère de la Culture. Et quelque part, on va se servir aussi du gouvernement en disant, vous dites qu'il faut décentraliser, que les politiques culturelles, elles doivent aussi partir du local, et donc on va s'appuyer sur les financements, les nouveaux financements du ministère de la Culture, quelque part, pour prendre la main. Donc c'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'elle s'est faite dans la douleur. C'est-à-dire tout le monde, moi quand je suis arrivé président plus de 17 ans après, on me parlait de la rupture de 81. Quand on a invité Roy Disney, qui est le neveu de Walt Disney, en 2000 pour fêter les 40 ans du festival d'Annecy, on m'a dit « mais invité Disney, vous n'avez pas compris que le festival d'Annecy a été monté contre Disney ». Quelque part, c'était un crime de lèse-majesté. Or que nous, cette histoire, on l'avait oublié, et puis que je pense qu'Annecy pouvait assumer d'inviter y compris Disney. Mais même en 83, quand on regarde les programmes, on voyait progressivement le nouveau directeur d'Annecy va y aller doucement avec Disney, d'abord en faisant des rétrospectives plutôt patrimoniales, et puis après progressivement il y a une délégation de Disney qui va venir à Annecy, mais les choses se sont faites progressivement. Et quand je dis le maître mot a été l'ouverture, à partir de 83, certes Annecy est d'abord un festival de court-métrage, mais à partir de 83 on va ouvrir au programme de télévision, on va montrer des longs-métrages à Annecy, on va créer des premières expositions et puis des premières rencontres professionnelles. Et puis il y a un moment qui va être très important, qui explique aussi notre succès aujourd'hui, c'est la création du marché du film en 85. Ça, c'est le fait de réunir le versant culturel et le versant économique, aujourd'hui explique aussi le succès de la manifestation, parce qu'on a l'ensemble de la filière qui est réunie aujourd'hui à Annecy. Et si on me demandait quel est l'un des facteurs clés de succès aujourd'hui d'Annecy, bah c'est de dire, OK, on a un festival qui a une ampleur mondiale, quoi. On accueille plus de 100 délégations étrangères cette année. Souvent, je prends une image, c'est de dire les Jeux Olympiques d'hiver, c'est 90 délégations étrangères. Donc, on a plus de délégations étrangères qu'aux Jeux d'hiver. Mais ce qui fait aussi le succès de la manifestation, c'est aussi son volet économique avec le marché du film. Et ces mondes, ils se renforcent. C'est-à-dire tous. Moi, à un moment donné, on me disait, et c'était des débats au sein de l'association, bah, quand le marché du film va se développer, il faudrait peut-être l'autonomie, qu'il prenne son autonomie. Les gens se posaient la question de dire, est-ce qu'on ne devrait pas, entre guillemets, le vendre à une société privée qui organise des marchés du film, hein, à Cannes ou ailleurs? Et je pense que ça aurait été une erreur stratégique, parce que nous, on va travailler pour organiser des liens. On va faire venir les étudiants au marché du film. C'est le seul marché du film où les étudiants peuvent passer. C'est aujourd'hui un lieu de recrutement. On va faire une sélection des projets qu'on va présenter au marché du film. Donc, on fait en sorte de marier les lieux, et on va aider aussi des nouveaux pays émergents. On va sélectionner des projets de pays émergents pour les montrer à Annecy, pour les montrer devant des gens qui ont des capacités de financer, des gens qui sont capables de soutenir les artistes. Donc on va faire tout ce travail-là et ce mariage. Et donc aujourd'hui, un des succès d'Annecy, c'est d'être capable de travailler sur ces deux volets, non pas de manière isolée, mais de manière complémentaire. Donc on voit qu'il y a eu des décisions à des moments donnés qui explique aujourd'hui sans doute notre succès et des décisions qui ont été prises dans l'histoire. Si en 85 on n'avait pas créé ce marché du film, on ne serait sans doute pas où on en est là aujourd'hui.
Ce qui fait que Annecy aujourd'hui un rendez-vous incontournable à l'échelle internationale du cinéma d'animation. Il suffit de se promener dans les rues de la ville ou dans les artères du MIFA pour se rendre compte et croiser en tout cas les personnes qui travaillent dans le monde de l'animation ne font que croiser des gens qui connaissent et des opportunités. Et puis c'est aussi l'endroit pour voir un peu tout ce qui se fait en animation, que ce soit les Minions par exemple pour l'ouverture, donc blockbuster d'animation, aux films d'auteur plus pointus ou difficiles d'accès. On y voit tout, et puis une section qu'Annecy classique consacrée aussi à son histoire. C'était important aussi que le festival lui-même regarde son histoire et projette des films qui ont été importants pour l'histoire du cinéma d'animation et pour l'histoire du festival du film d'animation.
Oui, Annecy, aujourd'hui, ce qui a participé à la médiatisation d'Annecy, il faut se le dire, c'est aussi le long métrage. Je prenais un exemple, en 2000, je me souviens, le jury n'avait décidé de pas de primer de long métrage. Ils avaient la possibilité de prendre 5 longs métrages en compétition, il n'y en avait que 4, et ça avait fait un scandale parce que le jury n'avait pas primé, considérant qu'il n'y avait pas de film de suffisamment de qualité. On recevait très peu de long métrage, parce qu'il y avait le grand Disney à Noël, et puis quelques films indépendants, mais pas beaucoup dans le monde. En quelques années, je crois qu'en 10 ans, on a produit plus de longs métrages qu'en près de 100 ans, quoi, d'histoire, quoi, d'animation. Autrefois, vous aviez que le Disney à Noël. Aujourd'hui, on a des longs métrages tout au long de l'année. Là, on a reçu près d'une centaine de longs métrages pour faire la sélection. Donc, on a 10 longs métrages possibles. Et puis, on a également la section contre-champ pour les jeunes réalisateurs. Alors, pourquoi je parle du long métrage? C'est parce que c'est pour dire que ça facilite aussi la médiatisation. La presse, elle va plus facilement vous interroger sur des longs métrages pour parler au grand public que sur le court métrage. Mais le court métrage, il est toujours présent. C'est une partie de l'identité d'Annecy. Donc on voit dans les festivals, on voit à Annecy toute la création mondiale. C'est-à-dire toute la création mondiale arrive à Annecy. On a reçu près de 3000 films et on va en sélectionner à peu près 500 pour la sélection officielle, quoi. Et donc, comme vous le disiez, on va voir des programmes classiques, des programmes du patrimoine. Cette année, on rend hommage à la Suisse. Claude Barras, qui a fait le long métrage Ma vie de courgette, qui a connu un grand succès public, film très émouvant, il a fait des longs métrages avant. Et donc, on lui a donné une carte blanche pour montrer son univers, montrer ce qu'il a inspiré. Donc, c'est une façon, au travers des yeux de Claude Barras, de découvrir à la fois ses courts métrages et les films qui l'ont inspiré. Donc, on a une section aussi qu'on appelle le off-limit. À un moment donné, avec Marcel Jean, on a considéré que de mélanger des films expérimentaux avec des films narratifs qui racontent une histoire, c'est pas facile de les primer dans la même catégorie. Donc, pour ceux qui sont adeptes des films expérimentaux, on a créé cette section off-limit. Donc, on va voir ainsi toute la création, tout ce qui est possible de voir, à la fois les films de patrimoine, à la fois les nouvelles créations. Et puis à Annecy, on va découvrir les nouveaux talents. Moi, je l'ai dit hier soir à la cérémonie d'ouverture, à Annecy, les étudiants, ils rêvent d'être un jour sur scène à la place des cinéastes. Et on a des gens qui ont fait tout le parcours. Si on prend Pierre Coffin, donc qui a créé les Mignons, qui a créé les Mois moches et méchants, qui est à l'origine de ces personnages. Pierre Coffin, il a fait l'école de l'image des Gobelins. Il a eu son film d'étudiant en sélection à Annecy. Et aujourd'hui, il fait partie d'une équipe qui sort des blockbusters avec Illumination, avec Universal. Donc, on a des exemples comme ça de gens qui ont fait tout le parcours. Et évidemment, bah, les jeunes créateurs, ils ont envie de suivre le même parcours. Donc, c'est Annecy, c'est ça. Et Annecy, pour ceux qui ne sont encore jamais venus à Annecy, c'est aussi une ambiance particulière. Je pense que ce qui fait cette ambiance particulière, c'est aussi la jeunesse sur le festival. C'est-à-dire que les gens manifestent leurs émotions. Avant un film, on a un certain nombre de choses qui font partie aujourd'hui de la mythologie d'Annecy.
C'est des rites assez étranges quand on ne les connaît pas. Enfin, pour assister à la première séance hier, on crie lapin, on envoie des avions de papier, c'est particulier.
Il y a des rites qui se sont créés avec le lapin, avec les avions de papier, avec les petits bruits qu'on peut faire avec la bouche, et en fait qui ont été créés progressivement par les jeunes qui arrivent au festival. Et par exemple, le lapin, ça date de 98 parce qu'on avait une bande-annonce qui terminait avec un lapin dans la neige. Depuis 98, les gens, ils appellent le lapin. Alors, parfois, on a essayé de le faire oublier, puis comme ça fait revenir, ça fait partie du patrimoine maintenant. Et donc, je dirais, c'est la jeunesse qui crée cette ambiance. Et c'est assez particulier parce que finalement, c'est ça aussi le cinéma en salle. C'est l'ambiance de ce qui peut se passer dans la salle. Et aujourd'hui, j'invite tout le monde à revenir dans la salle. Et ce qui se passe à Annecy, on comprend mieux que ce n'est pas ce qui se passe dans son salon quand on regarde des films en streaming. On a là une ambiance particulière, on a une ambiance de festival. Et puis, à Annecy, vous avez plein de choses. Vous avez même des ciné-concerts. On a Georges Figuebel, qui est un artiste aujourd'hui reconnu internationalement, qui travaille que sur le court-métrage. Mais quelque part, on pourrait dire qu'il fait de la peinture animée. C'est d'abord un peintre qui met sa peinture en mouvement. Et Georges Fiskebel est très friand de belle musique. Et il a un fils qui est un concertiste international en piano. Et il va nous présenter cette semaine un ciné-concert avec son fils qui accompagne ses films au piano. Et donc c'est ça aussi un festival, c'est de pouvoir de mélanger, je dirais, le spectacle vivant au cinéma.
Georges Fiskebel qu'on va rencontrer justement dans un prochain épisode de ce podcast. Bah, merci beaucoup Dominique Puteau. Et puis on vous invite à découvrir, pour en savoir plus sur l'histoire de ce festival, à lire le Festival international du film d'animation 50 ans d'une histoire animée. Et aussi dans le dernier numéro de Revue et Corrigé, voilà, on raconte un peu cette histoire également. Et puis on vous souhaite un bon festival qui ne fait que commencer.
Merci et puis bon festival à tous.
Merci. Alors on va sortir de la salle de presse pour retrouver l'une des légendes du Festival d'Annecy, qui lit actuellement tranquillement son journal sur un banc du square juste devant le centre Bonlieu. Il faut dire qu'il fait très beau et plutôt chaud aujourd'hui. Le centre Bonlieu, le QG du festival. Cette personne, c'est bien sûr le réalisateur de Kirikou, d'Azur et Asmar ou encore de Didili à Paris, Michel Oslo. Bonjour Michel Oslo.
Bonjour, et je ne sais pas comment vous appelez.
Alors je m'appelle Pierre, mais nous sommes pour Revue et Corrigé, le podcast réalisé en partenariat avec le Festival d'Annecy.
Bonjour Pierre.
Bien enchanté, vous êtes là Michel Oslo au Festival d'Annecy, notamment pour présenter votre dernier film, mais aussi pour recevoir un cristal d'honneur récompensant toute votre carrière. Mais vous et le Festival d'Annecy, c'est une très longue histoire, si je ne m'abuse.
Oui, j'ai découvert le Festival d'Annecy à Los Angeles. C'était ma dernière année d'étudiant et j'étais étudiant américain en 67-68. Je n'avais jamais entendu parler d'Annecy, mais j'ai réalisé que les animateurs à Los Angeles, pendant la journée, faisaient des pubs pour manger tous les jours et le soir, travaillaient pour Annecy. Et de retour en France, je suis allé à Annecy et ensuite, je n'ai pas raté un festival pendant toute une période qui a duré très longtemps de vache maigre pour moi. Et Annecy, c'était mon ballon d'oxygène. J'étais vivant, intense, heureux, une semaine par an. C'était Annecy. Ça m'a fasciné. Festival d'Annecy, c'est une chose énorme pour moi. C'était le bonheur, la richesse, la beauté, l'amitié, parce que de festival en festival on se retrouve. Annecy est le premier, m'a été imité, Dieu merci. Et on se retrouvait aussi de festival en festival. Et il y avait Zagreb, Hiroshima, des festivals au Canada. Et c'était tout un ensemble intense et où on a noué des amitiés par-dessus les frontières, des amitiés extrêmement réelles. Mais c'était Annecy le plus complet. Annecy qui profite d'un cadre que les autres festivals n'ont pas. Voilà. Donc ça a été une passion et ça m'a aidé à vivre.
C'est vrai que ce qui est assez amusant, c'est que dans le secteur de l'animation, quand on vient à Annecy la première fois, on a l'impression que c'est un grand petit monde dans lequel tout le monde se connaît. Il y a un peu ça aussi.
Oui, c'est ça. Ça fait partie du charme des festivals quand on se retrouve. Il en faut plusieurs pour que la mayonnaise prenne.
Vous vous souvenez de la première année où vous êtes arrivé à Annecy et vous avez dû voir le festival quand même changer entre cette année-là et aujourd'hui?
Le festival a énormément changé. Au début, c'était un événement plutôt parisien parce que la direction se trouvait à Paris. Puis il y a eu un changement de direction et tout a été rapatrié à Annecy. Puis il y a eu une envie de devenir gros et on est devenu gros. Et maintenant, c'est vraiment un événement mondial incomparable.
Oui, puis faut aussi dire que la France est un peu un des centres du monde pour l'animation. Marcel Jean, quand, dans son texte pour récompenser donc, le directeur artistique du festival, votre cristal d'honneur, dit que c'est aussi pour votre carrière, mais aussi parce que Kirikou a été un espèce d'avant et après pour l'industrialisation de l'animation en France, ou en tout cas la prise de conscience qu'il y avait vraiment un secteur de l'animation en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment est-ce que vous percevez ça?
Industrialisation, je n'aime pas trop. L'industrialisation a été vraiment prévue, organisée et réussie, je crois, à partir de 1982, où le gouvernement a décidé de faire une industrie de l'animation pour la télévision. C'était une première chose. Mais si je puis me permettre, à partir de Kirikou, on a compris d'une part qu'on pouvait très bien faire un long métrage d'animation en France et gagner de l'argent, mais on a compris aussi qu'on pouvait faire du cinéma qui dise quelque chose, qui soit l'ouvrage d'une personne ou d'une équipe, et pas seulement de l'industrialisation. Et c'est une des choses qui font que nous sommes différents en France. Il y a quand même un courant culturel de respect des artistes qui est très différent de l'industrialisation. Et ça fait que nous sommes différents.
Vous avez été aussi président de l'ACIFA, de l'Organisation internationale du cinéma d'animation, une association importante pour la défense justement du cinéma d'animation à l'échelle internationale. Cet engagement est aussi quelque chose d'important pour vous. Vous n'êtes pas seulement un artiste, mais aussi quelqu'un d'engagé pour votre art.
Oui, j'ai été un bon citoyen du monde de l'animation en faisant partie de cette association, puis en acceptant d'être président de l'association pendant 6 ans. Puis après, j'ai arrêté parce que pour diverses raisons que je peux vous expliquer. Donc l'ACIFA, c'est une chose, une association internationale qui a été fondée en même temps que le festival d'animation d'Annecy, plus ou moins par les mêmes personnages. Et c'est en France qu'il y avait cette énergie pour faire quelque chose pour l'animation qui existait un petit peu dans tous les pays du monde, mais très discrètement, très humblement et avec des bouts de ficelle. Mais il y a eu toujours de l'animation partout. On ne le savait pas. Grâce à l'ACIFA et à Annecy, petit à petit, on a su qu'il y avait de l'animation en dehors de Walt Disney. Cette ACIFA regroupait petit à petit tous les cinglés comme moi qui voulaient faire des petits films sans penser au retour de l'argent des vrais artistes. Et une fois par an, on se réunissait à Annecy. Petit à petit, des gens venaient. Petit à petit, les journalistes en parlaient. Cette ASIFA a organisé aussi les festivals dans le monde, parce que l'ASIFA était vraiment une association de beaucoup d'auteurs de films d'animation de tous les pays du monde. En particulier, à l'époque du Rideau de Fer, il y avait des membres des deux côtés du Rideau de Fer. Et on a fait beaucoup sortir de gens grâce à notre organisation. On a aussi organisé les festivals dans les régions du monde, d'ailleurs à la demande d'Annecy. Donc on a décidé à l'époque où c'était nous les animateurs, que Annecy serait une année et Zagreb serait l'autre année. Ils ne seraient pas ensemble, ça serait alterné, parce qu'à l'époque c'était seulement une fois tous les deux ans. Et la même chose pour des festivals au-delà. Hiroshima pouvait être en même temps qu'Annecy parce que c'était loin et c'était pas le même public. Petit à petit, justement, tous ces festivals ont montré aux gens que une création très personnelle existait, que le public pouvait aimer ça. Et l'animation est devenue à la mode. Et les festivals ont, je dirais pas refusé des gens, mais là, en ce moment, on refuse des gens aux projections. Toutes les salles sont pleines. Et maintenant, l'ASIFA, que j'ai un peu perdu de vue, n'a plus la même importance, parce que l'animation est à la mode. Et c'est très heureux.
Oui, les salles effectivement sont pleines, y compris la grande salle Bonlieu. Alors ce soir, vous présentez votre dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, qui sort en France le 20 octobre. Peut-être un mot pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de le découvrir à Annecy, pour leur donner envie de jeter un œil à sa sortie dans quelques mois.
Par une, des coïncidences extraordinaires, je n'ai jamais fait que ce que je voulais toute ma vie. Avec des grands passages à vide dans la période pré-Kirikou. Et cette fois-ci, après avoir fait un gros film qui s'appelle Dilili à Paris, qui a été assez lourd à porter, qui comportait entre autres un sujet terrible, ce que des hommes font aux femmes. Il faut savoir que le nombre de morts, simplement parce qu'on est femme, est plus grand que le nombre de morts par les guerres. C'est plus grave que les guerres. Et après ça, j'ai voulu justement revenir à mes premiers amours, des films courts. On m'a dit, il faut pas faire ça, des films à sketch, ça ne vend pas. Mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et je suis arrivé, avec l'aide de producteurs, à trouver quelque argent, pas beaucoup, mais de quoi faire un film quand même, en étant astucieux. Donc, je raconte trois histoires au lieu d'une, et vous, en fait, c'est une affaire. À la place d'un film, je vous en donne trois. Et ces films ont la longueur qu'il faut. Je n'ai pas rajouter de l'eau dans le vin pour qu'il y ait assez de matière pour faire une heure et demie, ou je n'ai pas coupé des bras et des jambes pour que ça rentre dans une heure et demie. Chaque histoire a sa bonne longueur et chaque histoire est différente. Il n'y a aucun rapport entre les histoires et il faut faire une certaine gymnastique. À chaque fois, on change d'univers et de technique, de ton. Et on s'est bien amusé.
On comprend que ces trois films de Michel Oslo. Merci beaucoup et puis félicitations aussi encore pour votre prix que vous recevrez ce soir. Merci.
Merci.
Voilà, ce premier épisode de Revue et Corrigée, la grande vadrouille au Festival d'Annecy, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Eugénie Philo de Revue et Corrigée, à Laurence Ittier du Festival d'Annecy et à son équipe, à Antoine Dabrowski de Tsugi Radio, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, toujours depuis le Festival d'Annecy.